Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Présence midi, on est ensemble jusqu'à 13h. C'est un plaisir pendant cet été de vous accompagner, avec plaisir aussi de retrouver David Torchala. Bonjour David.
Oui, bonjour Philippe, bonjour à tous.
Voilà, alors dans quelques instants, on va être avec vous juste pour parler de l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Et vous êtes avec des personnalités aujourd'hui, vous allez nous expliquer tout ça.
Oui, je suis avec un groupe de chefs d'entreprise qui découvrent le sanctuaire, mais je vous expliquerai pourquoi ils sont là.
Voilà, exact. Dans une poignée de secondes, on vous retrouve tout de suite. Et puis, à suivre, eh bien, nous serons avec Enzo Basile. Toute la semaine dernière, Enzo Basile nous a fait vivre le jubilé des jeunes à Rome avec le Saint-Père. On s'était arrêté à vendredi, puisque samedi, dimanche, il n'y a pas de présence midi. Eh bien là, aujourd'hui, il va nous faire le bilan de ce qui s'est passé samedi et dimanche. Et puis, dans le magazine De Passage à Lourdes, vous le savez, Lourdes, Cancer, Espérance, ce grand pèlerinage qui a lieu au mois de septembre au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Nous faisons vivre, bien sûr, pendant cet été, les meilleurs moments de notre émission. Et bien, on retrouvera un diacre qui fait partie de Lourdes Cancer Espérance, au beau pèlerinage. Il sera donc au micro de Mathias Terrier dans le magazine De Passage à Lourdes. Voilà rapidement donc le sommaire de ce magazine. Et bien, tout de suite, moi, je propose de nous retrouver avec vous, David Torchala, puisque vous êtes mis un petit peu à côté pour nous faire un autre chronique sur l'actualité du sanctuaire.
Exactement, je suis sur l'esplanade du sanctuaire avec un groupe. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde, et même déjà, je viens de voir quelques sacs de couchage enroulés sur des sacs à dos avec des jeunes avec le logo du jubilé, parce que vous savez qu'on attend aussi des jeunes sur le retour en fait du jubilé de Rome. Alors, j'ai déjà vu un groupe, je trouve que ceux-là sont très rapides, mais en tout cas, ils vont être des milliers à venir à Lourdes. Alors, évidemment, derrière moi, vous entendez les cloches, puisque ben, voilà, on vient de prier l'Angélus et aussi à la grotte, mais je suis aujourd'hui accompagné, enfin j'accompagne un groupe de chefs d'entreprise de grandes entreprises françaises. D'accord. Qui, le temps de leurs vacances, viennent découvrir le sanctuaire de Lourdes. Parce que le sanctuaire, vous savez, il a des projets de transformation, des grands projets urbains à horizon, on a envie de dire 2030. Ça fait déjà des années que le sanctuaire travaille sur ce plan. Vous savez, c'est on a toujours besoin de restaurer, de moderniser, d'adapter, de s'adapter vraiment, ça c'est le maître mot, aux personnes que nous accueillons, aux pèlerins, dans la langue qu'ils soient, etc. Et donc il y a évidemment des investissements à faire et le sanctuaire recherche des dons. Et donc voilà pourquoi on est aussi dans ce travail avec des chefs d'entreprise. Donc c'est toujours intéressant, c'est un public différent, vous savez, d'un groupe de pèlerins, mais je vous rassure, ils ont les mêmes questions que tous les pèlerins. Où est la grotte? Est-ce que c'est vrai qu'il y a des miracles? Et est-ce que cette eau coule toujours à Lourdes, etc. Donc c'est un vrai plaisir d'être là et de faire découvrir aussi à des personnes qui n'ont pas pour habitude toujours de fréquenter le sanctuaire, quoique on ne sait jamais ce qu'il y a dans le cœur et dans le secret des gens.
Ben oui, parce que vous nous aviez parlé il y a pas très longtemps d'un pèlerinage au mois de fin juin sur tous les gens des médias bien connus, les célébrités qui viennent aussi au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
Oui, c'est vrai aussi, vous voyez, Lourdes, ça fait partie de ces lieux qui sont populaires, qui sont connus de tous, et donc c'est souvent un point d'étape sur la route des vacances, quand on part au Pays Basque, ou quand on traverse les Pyrénées pour se rendre en Espagne, ou pour tout simplement vivre ici, dans nos belles montagnes, un temps de vacances, et bien voilà, un oasis spirituel, on peut venir s'abreuver tous les jours de l'année, j'ai envie de vous dire, mais l'été, évidemment, particulièrement, vous savez, ils sont saisis par cette foule ininterrompue de pèlerins qui sont face à la grotte, par toutes ces nationalités. Vous voyez là, sous mes yeux, je vois des personnes, des Tamouls, des Italiens, et je crois que ça, c'est Porto Rico, voilà, et qui est décrit sur une banderole. Vous voyez, c'est ça. C'est un vrai mélange, un melting pot de couleurs, et tous, voilà, pour venir être consolés et enlacés dans les bras de Marie, qui nous attend ici chaque jour, évidemment.
Eh ben écoutez, merci beaucoup David Torchala. Je sais que votre temps est compté puisque vous continuez la visite et vous les accompagnez. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour être en notre compagnie. Puis la semaine prochaine, je pense qu'on parlera plus longuement de ce qui nous attend pour le 15 août.
Ah ben oui, ça, vous savez, c'est une des plus grandes fêtes de Lourdes. Alors, on est dans les préparatifs, je vous dirai tout ce qu'il faut savoir. Mais déjà, notez, si vous le pouvez, venez à Lourdes pour le 15 août. C'est vraiment à vivre une fois dans cette vie.
Exactement. Voilà. Merci beaucoup, David. On vous laisse vite, bien sûr, continuer voilà, cette visite. Et à très bientôt. Et nous, on continue en musique avec le Sud et cette magnifique chanson signée Nino Ferrer. Très belle journée et très bon début de semaine.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'un million d'années. Et toujours en été se roule sur la pelouse, y'a plein de chiens, y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges, il ne manque rien. On dirait le sud, le temps du en été.
Saint-Céré, 95.8.
Bonjour Enzo Basile.
Bonjour Philippe.
Plaisir de vous retrouver. On sent que vous avez une voix un petit peu fatiguée quand même après cette semaine romaine, puisque c'était le jubilé pour les jeunes à Rome.
Oui, effectivement, une voix assez fatiguée, hein, mais qui montre que le jubilé a été très intense. Actuellement, on est dans un bus hein, qui, avec le diocèse de Cahors et de Montauban, sonne sur le retour de Rome. Nous sommes partis aux alentours de 19h. Actuellement, nous sommes dans les bouchons du côté de Arles. La nuit s'est faite dans le bus, donc tout le monde est fatigué. Des jeux, des chants, mais aussi beaucoup de personnes qui dorment. Voilà, c'est une semaine très intense qui mérite beaucoup de repos pour les participants de ce jubilé.
Mais vous, la bonne nouvelle, c'est que demain, vous serez à la matinale de Radio Présence. Alors, pas trop de repos pour vous.
Effectivement, oui. À partir de 7h30, oui.
À partir de 7h30. Alors, on vous a quitté vendredi, puisque samedi, dimanche, il n'y a pas d'émission. Alors, est-ce qu'on peut revenir rembobiner un peu tant que la mémoire est fraîche? Qu'est-ce que vous avez vécu samedi, Enzo?
Alors samedi, un grand moment puisque c'était la veillée avec 1 million de pèlerins à Tor Vergata. Alors Tor Vergata qui était un lieu assez connu hein, du milieu catholique, puisque c'est là qu'en 2000 les JMJ, en même temps que le jubilé, s'est tenu la veillée finale avec le pape Saint Jean-Paul II. On se rappelle aussi souvent de cette image de ce jeune qui avait franchi les barrières de sécurité pour aller voir le Très Saint-Père. Donc voilà, un lieu assez mémoriel, et on va dire que ceux qui étaient là en 2000, que ce soit des accompagnateurs, des prêtres, nous ont confié leur émotion, justement, de retourner là où ils étaient il y a 25 ans. Alors, une journée qui a été placée aussi sous le signe de l'attente et de la chaleur, puisque les foules se sont déplacées à partir de 9h du matin pour la veillée qui a commencé à 21h. Des grands mouvements de foule depuis Rome. Alors, généralement, il a fallu 2 à 3 heures, voire 4 heures pour se rendre sur les lieux. Mais bon, tout le monde était bien arrivé, tout le monde a pu voir le Très Saint-Père qui est arrivé en hélicoptère. Il a été accueilli par les autorités italiennes et puis il a fait un tour de papa mobile avant d'enfiler à sa mozzetta, son étole, et de célébrer une veillée qui a été marquée par il était marqué d'abord par le pape qui arrivait portant sa croix, faisant la démarche jubilaire comme les jeunes. Donc un moment très touchant qui a beaucoup touché les pèlerins. Et puis une veillée où il a pu répondre aux questions des jeunes. 3 jeunes de nationalités différentes qui ont posé 3 questions différentes sur lesquelles il a pu répondre et donner un peu sa vision pour la jeunesse et grands enjeux pour les jeunes du monde. Et puis enfin, la veillée d'adoration eucharistique, où les jeunes ont pu adorer le très saint sacrement présent dans l'ostensoir.
Ça, c'était donc pour la journée de samedi intense. Et puis, le point d'orgue, vous nous l'aviez dit, c'était le dimanche, la grande messe, où plus d'un million de jeunes étaient rassemblés.
Oui, effectivement, dimanche, jour de grande messe, à 9h, elle a débuté. Mais le pape, le pape qui aime ces bonnes foules, qui aime faire plaisir, était là dès 8h. Il a encore fait un tour de papa mobile, il est encore arrivé en hélicoptère. Et puis, voilà, une messe très simple, très sobre, mais avec des moments très pieux. On a senti vraiment une ambiance très différente hein, de Lisbonne, où on était vraiment dans la prière. La liturgie était très belle. Le pape a prononcé bien sûr son homélie, où il a rappelé que les jeunes étaient le grain de sel de cette terre et que c'était à nous, jeunes, d'agir et d'aller sur le devant. Il a rappelé aussi l'importance de la confession, de la confession, de l'adoration eucharistique, etc. Une homélie d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur le site de Vatican News, nos partenaires. Et le pape qui, après la messe, a donné rendez-vous à la jeunesse en 2027, du 3 au 6 août, pour les JMJ qui se dérouleront pour la première fois en Corée du Sud. Et puis, bien sûr, comme le pape nous réserve toujours de belles surprises, il a refait un tour de papa mobile avant de repartir en hélicoptère vers le palais du Saint-Office.
Alors, vous êtes avec les jeunes, vous nous l'avez dit, vous êtes sur le bus de retour, vous êtes parti à 19h, rien que ça, c'est quand même incroyable. Là, à l'heure où nous enregistrons, vous êtes toujours dans les bouchons de Arles, donc vous n'êtes pas encore arrivé à la maison. Qu'est-ce qui ressort de ces journées avec les jeunes qui vous accompagnent de nos diocèses?
Mais ce qui ressort, c'est un sentiment de joie d'avoir vu déjà le souverain pontife, qu'il a pu être aussi accessible. Hein. Les jeunes sont vraiment marqués par, on va dire, la surprise de mardi, parce que on était vraiment sur une surprise. C'est-à-dire que on sentait que c'était pas prévu et que c'était très spontané de la part du pape de se rendre sur la place Saint-Pierre après la messe. Quelques signes ne trompent pas, hein. Les gardes suisses qui n'étaient pas présents, notamment en début de messe, la réaction de Monseigneur Fisichella, ou encore les paroles qu'il a prononcées, hein, sans texte, qui venaient du cœur. Donc les jeunes ont vraiment été touchés par ça, puis ont été touchés aussi par voilà cette démarche jubilaire, hein, importante, quand même qui est assez conséquente, de cette occasion rêvée, puisqu'un jubilé n'arrive que tous les 25 ans. Dans 25 ans, généralement, c'est ces jeunes qui ont participé aujourd'hui à cet événement seront mariés, auront des enfants ou seront peut-être devenus religieux. Donc un sentiment de joie et d'un sentiment aussi d'être chanceux d'avoir pu participer à cet événement.
Parlons un peu de cette démarche jubilaire. Vous nous avez donné, il y avait quatre étapes pour avoir l'indulgence plénière. Est-ce que tout le monde l'a fait?
Oui. Tout le monde l'a fait, tout le monde s'est pris au jeu, hein, s'est pris au jeu et a saisi l'enjeu, si je pourrais dire. Faut dire que l'accompagnement spirituel qui a été donné aux jeunes était assez important. Les jeunes ont pu poser des questions, notamment sur leur foi, sur la société, et pour certains ont pu aussi en quelque manière se réconcilier avec le Seigneur. Certains ont pu communier tous les jours, chose qu'ils n'avaient pas fait depuis des années. Certains ont pu se confesser, alors oui, que ça faisait quelquefois 4, 5, 6 ans qu'ils ne s'étaient pas fait confesser. Donc on peut dire qu'effectivement, tout le monde s'est pris au jeu et a pu recevoir l'indulgence plénière.
Et pour la confession, donc, il y avait des prêtres, bien sûr, français qui ont permis de confesser.
Oui, bien sûr. Alors la confession, pour qu'elle soit valide, on va dire dans la démarche d'indulgence plénière, oui, faut que ce soit dans la semaine qui suit ou qui précède, voilà, par exemple le passage de la porte sainte, la communion, recevoir l'Eucharistie et prier aux intentions du pape. Mais la conférence épiscopale, enfin le jubilé et l'organisation du dicastère pour l'évangélisation avait organisé une grande journée passée sur le signe de la réconciliation au Circo Massimo Cerchi Maxime, où plus d'une centaine de prêtres venus du monde entier, hein, s'étaient retrouvés pour confesser les jeunes en plusieurs langues. Alors on avait du français, du portugais, de l'espagnol, de l'anglais, du chinois, on avait même de l'arabe. Voilà, c'est vraiment un grand moment autour du cirque Maxime, où on sentait vraiment une ambiance vraiment de pénitence, une ambiance lourde, de jeunes, voilà, qui avaient besoin de parler, qui avaient besoin de demander pardon. Ils ont été très bien accompagnés, notamment par la distribution de certains petits UCAT, le manuel justement qui aujourd'hui est très connu dans le milieu de la catéchèse, ou encore de petits guides justement pour préparer son cœur à recevoir le sacrement de réconciliation, avec notamment des actes préparatoires à la communion. Examen de conscience, par exemple.
Alors, on parlait tout à l'heure de la grande messe. Est-ce que elle est adaptée? Est-ce que l'Eucharistie est adaptée au public, voilà, c'est-à-dire un public de jeunesse?
Alors la messe est, oui, très adaptée. La messe, en fait, ne doit pas être adaptée en fonction des âges. La messe reste la messe et reste aussi le sacrifice, voilà, du Christ, et ce qu'on représente, ce que, en tout cas, les jeunes français attendent d'une messe, c'est voilà ce côté sacré, ce côté liturgique, avec vraiment une importance sur la belle liturgie, sur aussi voilà ce qui est prononcé aussi dans l'homélie. Donc la messe ne doit pas être adapté. La messe convient toujours, puisque la messe, c'est le sacrifice du Christ. Et puis justement, pour revenir sur votre question, Philippe, on a parlé avec donc le curé de la paroisse Sainte-Bernadette,
qui est
logé le diocèse de Cahors, Don Giulio, qui nous disait que... il a été frappé par les catholiques français, et notamment les jeunes, car les catholiques français, alors ce sont ces mots, sont là pour la prière. Ce sont toujours ces mots. Il dit que chez les Italiens, effectivement, il y a beaucoup de jeunes dans les paroisses,
oui.
Contrairement en France. Mais ces jeunes prennent l'Église comme un engagement du style une ONG pour lutter contre la précarité, pour aider les plus pauvres, pour aider les migrants. Une chose qu'ils trouvent bien sûr très bien et qui est très louable. Mais par contre, quand il s'agit de prier, eh bien, ils ressentent des difficultés pour certains, des réticences, notamment aussi au niveau des mœurs et de la morale, alors que pour les Français, ils ne trouvent que ce n'est pas le cas et que les Français sont vraiment dans une démarche de prière, en quête de sacré, en quête vraiment du Christ. Ouais. Ils sont capables, en fait, de concilier les deux, cet engagement solidaire, mais aussi cette quête intérieure de recevoir le Christ.
D'accord, oui, effectivement, peut-être qu'ils sont plus nombreux en Italie, mais la ferveur est moindre, vous venez de le dire, quoi.
Exactement.
Ouais. Donc là, vous êtes sur le chemin de retour, Enzo Basile. Est-ce que dans les diocèses, maintenant que les jeunes vont revenir, est-ce qu'il est prévu quelque chose dans les diocèses? Est-ce que vous savez si quelque chose est prévu pour faire une sorte de compte-rendu ou de bilan?
Oui, alors,
ou de bilan,
alors effectivement, certains diocèses ont organisé cela. Des journées dans quelques semaines hein, de relecture, de recollection avec ce qui s'est passé pour essayer de trouver les fruits et les grâces reçues pendant ce jubilé, ou d'autres continuent carrément aussi leur périple comme le diocèse de Hoche et de Pamiers qui, à l'inverse hein, des JMJ où il y a généralement une semaine de préparation, puis une semaine de festival dans la ville haute, eux ont fait la semaine de festival à Rome, puis une semaine, on va dire, de recollection, une semaine de décompression avant de retourner dans la vie réelle.
Et oui, c'est vrai, effectivement. Écoutez, merci beaucoup, Enzo, de nous avoir fait vivre déjà tout ce jubilé de la jeunesse de nos diocèses pendant tout le périple. Merci d'avoir été présente à la fois au matinal et puis à la fois aussi présent ce midi. Vous êtes sur le chemin du retour, vous êtes fatigué. Demain, vous serez quand même bon pied, bon oeil à la matinale de Radio Présence. Merci pour votre travail et puis juste signaler que vous n'avez qu'une vingtaine d'années, c'est ça Enzo, hein?
Exactement, une vingtaine d'années et je suis étudiant en droit, donc je ne suis pas du tout du milieu
journalistique. Mais vous avez eu quand même cette chance, c'est un petit clin d'œil quand même que vous fait la vie, hein, d'avoir été aux premières loges pour, eh bien, quand le pape, quand on a su qu'il y avait un nouveau pape. Et puis là, vous étiez aussi avec tous les journalistes très proches pour la messe.
Oui, effectivement, vraiment, c'est une grande grâce que le Seigneur me fait. Hein. La première fois, effectivement, au conclave, où nous avons pu voir vraiment le pape à 20 mètres de nous, hein, sur le balcon de journalistes, le balcon Carlo Magno, dans les colonnades de la basilique Saint-Pierre. Et là, voilà, plus ça va, plus j'ai l'impression de se rapprocher du pape qui était à 5 mètres de moi, effectivement, ce dimanche. Donc, vraiment, un grand merci aussi au Seigneur et à Radio Présence de me pouvoir faire vivre tout ça.
Voilà, mais nous aussi, à nous, à vous remercier pour nous avoir fait vivre, voilà, de l'intérieur, ce que vous avez bien sûr vécu. Très bon retour, bon courage à vous, parce qu'il vous reste encore quelques heures de bus. Mais bon, vous touchez à la fin là. On va vous souhaiter bon courage et puis de vous reposer. Puis on vous retrouve demain, bon pied, bon œil, on l'a dit, sur la matinale de Radio Présence. Merci pour votre travail et puis on félicite aussi tous ces jeunes d'avoir participé donc à ce beau jubilé.
Merci beaucoup Philippe, à demain.
À demain, au revoir.
Radio Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM. Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas, allez, on n'y va pas. En plus, faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine. J'ai l'air d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir, je les aime bien tes amis, mais je veux pas les voir, parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. D'humeur, tout me déprime. Et il se trouve que par hasard, il y a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d'œuvre du 7e art que je voudrais revoir. Un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez. C'est une satire sociale dont le personnage central est joué par De Funès. En plus, il y a des extraterrestres. On s'en fout, on n'y va pas. On n'a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas. On n'a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi. J'ai des frissons, je me sens faible, je crois que je suis souffrant. Ce serait pas raisonnable de sortir maintenant. Je préfère pas prendre de risques, c'est peut-être contagieux. Il vaut mieux que je reste, ça m'ennuie, mais c'est mieux. Tu me traites d'égoïste. Comment oses-tu dire ça? Moi qui suis malheureux et triste, et j'ai même pas de home cinéma. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas, et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi.
Vous l'avez reconnu, le chanteur Benabar à l'instant avec le dîner sur Présence. 12h passées de 27 minutes. Merci de nous accompagner. On continue en musique.
Présence à Cahors, 92.5.
Dans quelques instants, ce sera l'actualité de la mi-journée, mais pour l'instant, c'est Didier Barbelivien.
Mon nom ne veut rien dire, mon âge encore moins. Je suis pour tout dire, un bon citoyen. J'admets sans réplique ce qu'on m'a enseigné. Je sais qu'en Amérique, Dieu est à nos côtés. Je l'ai lu dans l'histoire, les Américains se couvrir de gloire contre les Indiens. Ils les massacrèrent, le cœur bien en paix, la conscience claire, et Dieu à leur côté. Après la Seconde Guerre, on nous a appris les Allemands de naguère deviennent nos amis. De toute une race humaine, s'ils ont fait un péché, c'est de l'histoire ancienne. Dieu est à leur côté. Nous avons les bombes les plus perfectionnées. Que saute le monde.
voudrais qu'on bascule. Un bouton à pousser. N'ayons plus de scrupules. Dieu est à nos côtés.
Dieu est notre côté. À l'instant, c'était Didier Barbelivien sur Présence.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Il est l'heure de retrouver à 12h30 le journal de la mi-journée qui nous est présenté par Carla Ponce de l'école de journalisme de l'ISCP1 à Blagnac. Bonjour Carla.
Bonjour à tous. L'Agence régionale de santé lance son opération estivale Bon été, bon réflexe ce lundi et mardi en Ariège. Au programme, animation, conseil santé et dépistage gratuit sur deux sites touristiques. Rendez-vous aujourd'hui au lac de Bethmale et demain au parc de la Préhistoire à Tarascon-sur-Ariège. L'occasion de faire le point sur sa santé cardiovasculaire et d'adopter les bons gestes face à la chaleur, au soleil ou aux piqûres d'insectes. Une initiative gratuite et sans rendez-vous. Le téléphérique Téléo s'arrête pour 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Comme chaque été, Tisséo engage une vaste opération de maintenance, démontage des cabines, déplacement des câbles porteurs et tests de sécurité. Une centaine de techniciens, pompiers et même le RAID en hélicoptère participent à ces vérifications cruciales. L'objectif, garantir la sécurité des 6000 usagers quotidiens. Le service devrait reprendre à la mi-août. À Figeac, dans le Lot, 10 commerçants du centre-ville participent à une expérimentation originale, l'installation de supports vélo amovibles devant leur boutique. Baptisé « Commerce en selle », ce dispositif permet aux cyclistes de faire une pause rapide pour leur emplette. Loué pour 1 an à une société du Gers, ces équipements visent à encourager les déplacements doux. Figeac devient ainsi la première ville à tester ce concept d'arrêt-minute version de roue. Et à Castres, dans le Tarn, la fréquentation des pèlerins sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle explose. Environ 1 millier de marcheurs passent chaque année par la ville, qui propose désormais 2 gîtes Donativo. Ces hébergements solidaires fonctionnent sans tarif fixe. Chacun donne ce qu'il souhaite et peut. Cette initiative, soutenue par la municipalité et l'église locale, séduit de plus en plus de pèlerins venus de toute l'Europe et au-delà. L'Office de tourisme de Castres-Mazamet confirme cette hausse avec près de 500 pèlerins accueillis chaque saison. 5 km de documents, plus de 300 000 pièces à classer sur 25 000 étagères. Les archives départementales des Hautes-Pyrénées vivent un déménagement hors norme. Depuis mars, les équipes transfèrent chaque jour près de 200 mètres linéaires de documents dans les nouveaux locaux qui ouvriront à la rentrée. Un balai logistique préparé depuis des années entre tri, numérisation, dépoussiérage et réorganisation des fonds. Température contrôlée, rayonnage adapté, ce paquebot des archives promet de meilleures conditions de conservation et de travail. Originaire d'Ordon-la-Roque dans le Gers, Xavier Batz s'apprête à représenter la Suisse au prestigieux championnat du monde de pâté en croûte. Installé à Lausanne, ce chef autodidacte a décroché sa place pour la finale prévue le 1er décembre à Lyon. Son objectif, faire rayonner cette spécialité charcutière avec une recette toute droite inspirée de ses racines gascognes.
Ça a l'air bien bon tout ça. Merci beaucoup Carla Ponce de l'ISCPA, l'école du journalisme de Blagnac, qui nous accompagne ces jeunes pendant même tout l'été pour le journal de la mi-journée. Puis le retour de l'actualité, vous le savez sur Présence, ce sera 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Allez, on va replonger sur les archives, puisque l'été on vous fait vivre le meilleur. Eh bien, je vous propose d'écouter ou de réécouter l'interview de Mathias Terrier dans Deux Passages à Lourdes avec Monsieur Vicario, qui est diacre dans ce beau pèlerinage Lourdes Cancer Espérance.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette émission, c'est Marc Vicario, notre invité. Bonjour Marc.
Bonjour.
Vous êtes diacre dans le diocèse d'Orléans et vous accompagnez la délégation de ce diocèse dans le cadre du pèlerinage Lourdes Cancer Espérance.
C'est ça.
C'est du parcours d'un diacre dont nous allons parler avec vous. On a envie de vous entendre sur votre vocation de diacre, sur la conciliation entre le diaconat et la vie professionnelle, l'atterrissage à un moment aussi de cet appel dans une famille. C'est tout ça que vous allez nous raconter, si je puis me permettre, Marc Vicario. Pour commencer, vous êtes à Lourdes, en accompagnant cette petite délégation du diocèse d'Orléans. Vous vous sentez bien à Lourdes? C'est un lieu qui vous parle?
Oui, bien sûr, hein, à qui ça ne parlerait pas.
Il y a des gens pour lesquels ça ne parle pas, ça existe, ça peut arriver. Voilà.
Non, c'est un lieu assez miraculeux, si on peut dire, parce que déjà pour le pèlerinage de Cancer Espérance, nous avons tous notre uniforme et nous nous rencontrons, et c'est le pèlerinage du sourire. Donc on s'interpelle les uns les autres, on est capable d'échanger, et c'est vraiment quelque chose de très riche.
Donc pour vous, c'est d'abord un lieu de la rencontre.
Voilà, c'est un lieu de rencontre.
Hein, moi, vous êtes un homme de relation, plutôt. Oui. Et donc vous dites à Lourdes, il y a des conditions idéales pour que quelque part on puisse se rencontrer en vérité.
Oui, parce que nous sommes unis par quelque chose de profond et que nous partageons, quoi. Enfin, notre foi et puis cette rencontre avec la Vierge et cette aventure de cette petite jeune fille.
Pèlerinage du sourire. On a du mal à entendre parfois ça, alors que ce qui lie le pèlerinage Lourdes Cancer Espérance, outre l'espérance dont on peut parler, c'est le cancer. Mmh. Donc la souffrance, donc une maladie qui peut aussi mener à de très très grandes souffrances et à la mort. C'est possible ça, de faire cohabiter dans une même dénomination Lourdes Cancer Espérance?
C'est quand on est chrétien, la dimension de l'espérance est essentielle, et donc
oui,
la foi, c'est de la même famille que la confiance. On s'abandonne à celui qui vient éclairer nos pas. Hein. Et je crois que c'est effectivement un très beau nom, Lourdes, oui. Bien sûr, le lieu, cancer, qui est. Il y a plein de formes de cancer au fond. Hein. Et les pires sont peut-être pas ceux qu'on imagine. Et puis, ça se termine par l'espérance. Une vertu théologale.
Oui. Vous êtes diacre depuis 30 ans.
Oui.
Cela signifie, sans vouloir donner votre âge, que c'est autour de l'âge de 40 ans.
C'est ça.
Que vous avez été ordonné.
Voilà.
Ou même 42, à 40 ans.
Peut-être. 42 ans.
42 ans.
Donc, voyez,
donc un jeune diacre. On va peut-être essayer avec vous de voir qu'est-ce qui vous a mené au diaconat. Comment se fait-il qu'à 42 ans, vous l'avez fait sans doute auparavant, hein, ce chemin pour être ordonné diacre? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, ce qui s'est passé, c'est un concours de circonstances, parce que je prévoyais absolument pas, j'avais pas ça dans un plan de carrière. Hein.
Parce qu'à l'époque, vous êtes chef de projet dans une très grosse société informatique.
C'est ça.
Voilà. Donc non, votre idée, c'est pas d'ajouter au CV diacre.
Voilà. Non, mon idée, c'était de voir une église dans laquelle on peut dialoguer, discuter. Et donc un évêque, c'est quelqu'un qui peut être un interlocuteur. Donc j'avais une question à lui poser. Et
vous l'avez interpellé?
Et je l'ai interpellé. Et il a répondu. Et la chose étonnante, c'est que ma femme, c'est elle qui avait pris le rendez-vous.
Par téléphone, donc elle l'a eu au téléphone.
Elle l'a eu au téléphone et elle m'a demandé est-ce que ça. Il faut que je vienne avec toi. Oui, viens, si tu as envie de voir un évêque de près, profite. Et donc, elle est venue et c'est après une discussion assez longue, hein, quand même, où il a dû jauger, peser, j'imagine, je ne suis pas évêque. Il nous a posé la question, comme ça, brut de fonderie. Avez-vous pensé au diaconat?
Vous n'avez pas répondu tout de suite?
Ah non, non.
D'ailleurs, ça pas. Enfin, votre épouse reçoit ça de façon.
D'abord, elle est
un peu dérangeante, non? Enfin, ça. Elle est pas enchantée.
Alors. Elle est mariée avec un époux pratiquant, quand même.
Oui.
Hein, donc je.
Elle qui ne l'est pas.
Elle ne l'est pas. Elle sait que je vais régulièrement à l'église, que je suis engagé dans l'église pour diverses choses. Donc elle n'est pas étonnée du tout. Hein, donc.
Oui, c'est quand même un changement de vie à un moment qui doit se vivre en couple.
Voilà. Et puis, très sincèrement, si on est dans le domaine du faire, je pense que ma femme est bien plus diacre que moi. Et dans le village, je suis l'épouse de Muriel, plutôt qu'elle l'épouse du diacre.
Vous voulez dire qu'elle est très engagée dans le monde social, dans, voilà, dans le lien, dans l'aide, l'entraide.
Ah oui, oui. Et en même temps, elle fait un lien, parce que bah, elle va voir des personnes âgées, et c'est très curieux, parce que bah, les personnes âgées sont quelquefois préoccupées par leur fin dernière et ce qui va se passer. Et Muriel, je veux que ce soit ton mari qui m'enterre.
Voilà. Marc, comment vous définiriez le rôle du diacre ? Avec l'expérience que vous avez maintenant, 30 ans d'expérience, peut-être que oui. C'était pas la définition que vous aviez de ce rôle il y a 30 ans, mais aujourd'hui, avec un peu de recul, vous diriez quoi de la place du diacre dans l'Église, dans la société, de sa mission ?
Alors, la place du diacre dans l'Église, elle est peut-être encore un peu à discuter, à revoir, en fonction des paroisses, en fonction de l'esprit du prêtre, etc. Et puis, elle est à expliquer aussi pour toutes les personnes qui sont croyantes, parce qu'il y en a quand même beaucoup encore, hein, malgré tout, mais qui ne sont pas pratiquantes, donc ils ne savent pas trop. Voilà. Je sais que ça a eu un impact puisque à cette époque-là j'étais employé, je travaillais et par exemple j'ai gardé des contacts avec certains collègues et d'autres un peu moins et j'ai été contacté dernièrement par la femme d'un de mes anciens collègues qui se souvenait que j'avais été ordonné diacre. Son mari était mort et voulait que je célèbre ses funérailles.
Donc vous avez accompagné la famille dans ce deuil.
Je crois que c'est ça le rôle du diacre. C'est en fait, on est dedans et dehors. On est dans l'Église, comme tout baptisé bien sûr, mais avec une fonction peut-être un peu visible quelquefois. Mais aussi on est à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur. Moi, je crois que ça serait peut-être une des plus belles missions. Voilà, c'est de dire à ceux qui sont dans l'Église, regardez ce qu'il y a dehors. Et à ceux qui sont dehors, regardez ce qu'il y a dedans. Parce que l'Église, elle n'est pas faite que de gens qui se trompent. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Elle est faite de plein de prêtres engagés qui aiment leurs paroissiens, qui aiment ce qu'ils font, etc. Et ça, c'est peut-être aussi une fonction du diacre, de faire ce pont.
D'être un pont.
Ouais.
Vous êtes marié donc à Muriel, on l'a compris, pour laquelle vous avez de magnifiques mots, et puis vous avez 4 enfants.
Oui.
Régine, Hélène, Céline et Pierre.
Voilà.
Forcément, lorsqu'il y a la vocation de diacre, vous avez 42 ans, c'est toute une famille qui est concernée.
Oui.
Alors, selon vous, comment vos enfants ont reçu cette vocation ?
Alors, je crois qu'il y a eu une de mes filles qui a eu peur. Alors, je pourrais pas, je me souviens plus de laquelle, mais elle a eu peur qu'on prenne son papa.
Ce qui n'a pas été le cas, parce que vous êtes à 100% disponible à la famille.
Bien sûr, et je crois que c'est une des conditions pour l'ordination. C'est, enfin, un évêque qui fait un décret attentif doit vérifier ça. Enfin, pas quelqu'un qui
bon, maintenant, vous êtes grand-père.
Voilà.
Donc, 30 ans après... Alors, j'ose pas vous poser la question si vous regrettez quoi que ce soit, mais 30 ans après, vous vous dites, au fond... Ben ce chemin-là, s'il était à refaire, je le referais. C'est un chemin d'engagement, quand même, le diaconat.
Ah oui, mais je le referais à 100%. Ah oui, je le referais. Alors, pour des raisons peut-être pas très avouables au départ, parce que finalement, être diacre, quoi qu'on en dise, c'est un statut dans l'Église.
Ah oui.
Faut le dire tout simplement. Donc on est à une place, on est regardé. Et c'est pas forcément toujours déplaisant. Et puis c'est un engagement de service. Et c'est ça qui doit nous motiver plus que
le diacre est un serviteur.
Oui, ça doit être.
Et ça, faut que vous le redisiez, pas chaque jour, mais souvent en disant mais je suis pas un donneur de leçons ou un porteur de morale, je suis un serviteur. Ça n'est pas très simple, sans doute. d'être toujours sur cette ligne d'humilité, de service.
Non, c'est pas
parce que c'est pas, peut-être pas ce qu'on vous demande. On vous dit, soyez le premier en chemin, quoi.
Je ne sais pas si on nous demande d'être le premier en chemin, on nous demande d'être disponible surtout, d'être serviteur. Et oui, je crois.
Vous les vivez comme ça.
Ouais, moi, je le vois comme ça. Et peut-être que certains de nos responsables ou évêques n'ont pas toujours la mesure de ce qu'ils demandent. Hein. C'est possible, parce qu'il y a des diacres qui ont eu des missions très, très lourdes. Hein. Voilà. Moi, ça n'a pas été mon cas. Et puis là, en ce moment, c'est plutôt... Le contraire, c'est une mission familiale.
C'est Monseigneur Picandet qui vous a ordonné ?
Oui.
Qui est décédé brutalement ?
Oui, oui, oui.
Ça vous a marqué ?
Ça m'a énormément marqué, d'autant que 8 jours avant son décès, il avait téléphoné à la maison en demandant à mon épouse s'il pouvait venir.
Sans aucune raison particulière ?
Sans aucune raison particulière. Nous, on se demandait s'il y en avait une, bien sûr. Et il est arrivé à la maison, il s'est installé, on lui a servi un verre à boire, et il était là, il avait besoin de se reposer.
De souffler parmi vous, voilà. Oui.
Et si je me souviens bien de cet événement, c'est que 8 jours plus tard, il était mort, on l'a retrouvé mort dans sa voiture, quoi.
Nous allons nous arrêter quelques instants, Marc Vicario, si vous le voulez bien. Juste après la pause, je suggère que nous reparlions de votre mission de diacre telle qu'elle s'est exercée durant ces 30 années. Maison d'arrêt,
oui.
Lourdes Cancer Espérance, tout ce que vous pouvez vivre en proximité. On marque cette pause et on se retrouve juste après.
Eh bien, tout de suite.
Présence de passage à Lourdes, proposée par Mathias Terrier.
Merci Marc Vicario de témoigner, de vous livrer un peu, vous qui êtes diacre pour le diocèse d'Orléans. Depuis 30 ans,
ça
se fête ?
Ben oui, ça se fête, oui. À la sortie, on va boire un verre ensemble.
Je ne sais pas, en tout cas, bravo. Vous êtes père de famille, père de 4 enfants, vous êtes grand-père, marié à Muriel, dont vous nous disiez qu'elle est plus diacre que moi, dans le sens, non pas parce qu'elle prend de la place dans les célébrations, hein, parce que... Elle n'est pas pratiquante, mais elle est très engagée au plan social.
Elle n'est pas pratiquante, mais elle sait venir à bonne occasion.
En tout cas, vous nous avez dit comment votre vocation est née, et puis ce que ça a apporté dans votre vie, vous qui étiez, au moment où vous êtes ordonné, chef de projet dans une très grosse société informatique. Attachons-nous à une expérience sans doute marquante pour vous. Celle de 7 années à la maison d'arrêt d'Orléans.
C'est ça.
Où vous êtes aumônier.
Oui.
On touche pour une partie la misère humaine quand on côtoie le monde des détenus avec tout ce lot de fautes commises, de crimes.
Alors, on touche, effectivement, c'est un point... à souligner, mais j'ai envie de dire aussi que l'importance, c'est nos témoignages pour les personnes détenues, mais aussi notre place avec les personnes qui y travaillent.
Ah.
On oublie aussi ce lien. C'est-à-dire qu'il faut respecter les deux. C'est-à-dire respecter le travail de ces gens. Les matons, comme on dit... Et c'est pas facile. Et la maison d'arrêt d'Orléans, c'est un lieu où on a toutes sortes de délits. Du pire au voleur de voiture, tout simple. Enfin, quand c'est la nôtre, c'est pas tout simple. Voilà. C'est le pire et le moins pire qu'on voit. Mais il y a des gens qui travaillent. Et ceux-là aussi, il faut les respecter. Et il faut montrer une image d'église auprès de ces gens-là.
Parlons peut-être d'abord des détenus. Parfois, on dit dans l'église, il faut faire la part entre la personne et ses actes. Des mots, quand même, parce que c'est pas facile, ça. Qu'on le veuille ou non, quand quelqu'un a commis des choses très graves ou des choses qui ont fort profondément blessé... Vous êtes aumônier, vous allez rencontrer ces personnes. Alors, sans entrer dans le détail des choses, on a envie de comprendre quelle est la posture du diacre, qu'est-ce que vous, comment on peut vivre ça et accompagner ces réalités?
Eh bien, on l'accompagne parce que quand on est diacre, mais quand on est chrétien, d'abord le diacre est un chrétien, il a l'espérance qu'il y a dans tout homme, dans toute personne, une possibilité de rachat. Que toute personne a une valeur, quelle qu'elle soit. Moi, j'ai l'exemple en tête, là, d'un monsieur qui a pédophile. Toute sa famille y est passée.
C'est affreux, quoi.
C'est affreux. On a du mal à même à parler avec lui, enfin. Et surtout que dans les débuts, il prend ça comme quelque chose presque de naturel, quoi. Enfin, c'était...
Il relativise.
Voilà, c'est ça. Et peu à peu, le changement. Alors, le changement, c'est pas moi qui l'ai apporté. Son environnement et sa famille, etc. Et c'est un monsieur qui est maintenant libéré et qui est chrétien pratiquant. Alors, il a fallu du pardon, il a fallu bien des choses. Je pense que c'est toujours pas simple maintenant. C'est quelqu'un qui est suivi psychologiquement, mais je crois en l'humanité profondément.
Vous avez conscience que ce que vous dites là,
c'est choquant,
pour un certain nombre, c'est un peu irrecevable, enfin, à vue humaine.
Bien sûr.
C'est pas recevable, en fait.
Et bien, ça ne l'est surtout pas, je pense, pour les victimes, bien sûr. Mais je pense qu'être chrétien, c'est aussi avoir le droit de dire une parole de vérité, dire c'est inadmissible. Mais il y a une espérance que dans toute personne, il y a quelque chose de beau et de bon.
Mais vous, Marc Vicario, est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire quand même, à la sortie de la maison d'arrêt, une semaine ou un jour ou un autre, c'est désespérant, quoi, de voir la misère humaine, parce que parfois on touche le fond.
Ah oui, bien sûr qu'il y a des moments où
on peut se dire plein d'espérance.
Bah, mais bien sûr, parce qu'il y a des situations où on se demande comment on peut arriver à ça.
Il n'y a même pas de mots.
Et puis, mais ils ont une logique tout à fait personnelle. Hein. Un exemple qui me vient à l'esprit là, à l'instant, un qui était en prison, il dit, c'est parce que j'ai volé une voiture. Ben, j'y allais, c'était pas à toi. Oui, mais moi, j'en avais besoin. Voilà sa réponse. C'est-à-dire que on est face à des gens qui n'ont pas les mêmes repères. Alors, le vol de voiture, s'il était en prison, c'est sûrement pas sa première. Hein. Mais voilà, on n'a pas les mêmes repères.
Vous, comment vous avanciez avec ces personnes? Vous leur parliez de Jésus, de la Vierge Marie, c'est possible? Dans
oui,
ce contexte d'une maison d'arrêt?
Oui, bien sûr.
Je crois qu'il y a un des détenus un jour qui vous a demandé une photo de la Vierge Marie. Oui. Une représentation, pardon.
Oui, bien sûr. Là, je peux raconter cette histoire, parce qu'elle est un peu comique, à la limite. Ce jeune homme me dit, j'aime beaucoup la Vierge Marie, est-ce que tu pourrais m'apporter une image? Évidemment, je m'empresse de lui donner une belle image de la Vierge Marie, et un jour, quelques semaines plus tard peut-être, j'avais les clés des cellules. Donc je frappe à sa porte, et parce que malgré tout, je précise, je frappe à sa porte parce que on savait que c'était pas le surveillant qui venait, quoi.
Oui.
et je rentre, et effectivement, il aimait beaucoup la Vierge Marie, elle était accrochée
sur son mur,
à côté de son lit, et elle était entre deux pin-up.
Ouais.
Voilà.
Donc il faut avancer avec personnes telles qu'elles sont.
Voilà, donc il y avait deux femmes nues et puis l'image de la Vierge Marie entre les deux. Voilà, c'était... Voilà. Alors, j'avoue que j'ai plutôt souri. J'ai peut-être pas eu j'aurais peut-être pu lui expliquer que c'était pas le lieu, etc. Mais j'ai été pris plus par le comique de situation que de...
Vous avez vécu 7 ans dans cette maison d'arrêt. Enfin, j'y ai vécu, vous y êtes allé toutes les semaines, pendant plusieurs années. Vous nous disiez à l'instant, j'avais les clés des cellules. Dites-moi, mais c'est légal, ça, d'avoir qu'un diacre aumônier ait les clés des cellules? Pardon de vous poser la question comme ça, mais...
Je ne sais pas.
C'est une sacrée marque de confiance.
Oui, parce qu'il ne faut pas tricher, ni avec les détenus, mais pas non plus avec les personnes qui travaillent, parce que c'est un travail très respectable qu'ils font, et si ils ont besoin d'être soutenus et compris, les surveillants. Voilà. J'imagine que les personnes détenues avaient une opposition, encore que. Ils savaient reconnaître travail qu'ils faisaient. Quelques-uns le disaient très clairement. Moi, j'ai pas jugé.
Vous aviez la confiance de l'administration pénitentiaire.
Ah oui, pendant le temps que j'étais, oui, j'ai vraiment vécu. Cet exemple en rencontrant le directeur de l'époque. Je discute avec lui, comme ça, puis il me dit, je vous quitte, je vais aux cuisines. Ben, j'ai dit, c'est marrant, je n'ai jamais visité les cuisines. Ben, il me dit, monsieur, vous êtes chez vous ici, vous allez où vous voulez. Je crois que c'était le plus beau compliment qu'on m'ait fait durant ces 7 ans.
Oui, il vous disait, le directeur, au fond, j'ai confiance en toi.
Voilà.
Je sais que ce que tu fais est bien pour les détenus.
Alors, ça suppose aussi qu'il ne faut pas être pas sentimental, mais trop sensible, parce que les personnes détenues sont demandeurs de plein de choses. Tu peux m'apporter ci, tu peux ci, là.
Oui.
Et là, il faut savoir dire non.
Tout à l'heure, vous nous avez dit que votre attention se portait sur les détenus, mais aussi sur tout le personnel qui travaille au sein d'une prison. Vous diriez que votre mission de diacre a été d'accompagner aussi ces personnes dans, parfois même, leur souffrance. Enfin, accompagner. En tout cas, d'être là.
Oui, d'être là, parce que je dirais pas qu'on... peut-être que des confrères ont été capables de le faire. Moi, je n'ai pas eu l'impression...
Enfin, vous aviez une attention assez...
Voilà, mais j'avais beaucoup de respect pour le travail qu'ils faisaient. Parce que c'est des gens qui... Je ne sais pas ce qui les a amenés à devenir surveillants de prison, mais... Ou je suis peut-être très naïf, mais j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très engagés. J'ai trouvé qu'ils étaient très à l'écoute. Alors évidemment, ils étaient peut-être quelquefois sévères avec certains qui essaient de profiter des situations, mais sincèrement, j'ai toujours trouvé qu'ils étaient à l'écoute et c'est un beau boulot.
À l'issue de ces 7 années, vous avez vous-même ressenti qu'il fallait mettre un terme à cette expérience pour vivre autre chose comme diacre ?
Oui, oui, oui. Je pense qu'il ne faut pas s'approprier les missions, déjà, d'une part. C'est une mission, elle est donnée pour un temps. Et puis, il y avait peut-être aussi une forme de lassitude de ma part, hein, je veux bien le concevoir.
Donc aujourd'hui, vous êtes aumônier de Lourdes Cancer Espérance. Pas à plein temps, mais en fait, c'est votre mission principale.
C'est ma mission principale, parce que Lourdes Cancer Espérance, c'est pas 5 jours dans l'année. Hein. C'est toute l'année.
C'est peut-être une particularité de ce pèlerinage. C'est qu'il y a le point d'orgue à Lourdes, mais il y a tout le reste de l'année.
Voilà, c'est toute l'année.
Des rencontres.
Des rencontres, des partages. Il y a un petit bulletin qui circule, trouvé à remplir, à dire des choses, à garder un lien. Alors, ce n'est pas le diacre qui fait ça. Là, encore une fois, nous avons une déléguée, qui fait un travail diaconal.
Et donc ces rencontres, c'est la rencontre avec des personnes qui ont besoin justement d'une présence, d'un lien social, parce qu'elles se sentent isolées.
C'est
des rencontres dans la perspective du pèlerinage.
Il y a peut-être des personnes isolées parmi les gens, mais c'est pas l'objet. C'est pas l'objet. L'objet, c'est des rencontres fraternelles et avec quand même quelques-uns. On est tous concernés par le cancer. Il y a ceux qui, comme moi, ne l'ont pas encore, mais qui est concerné parce que j'ai perdu ma belle-mère, qui était une femme extraordinaire, de cette maladie. On ne peut pas passer à côté sans être interpellé par cette injustice de la vie. Hein. Quelqu'un pleine santé, paf, on annonce la maladie. Et puis, malgré toutes les belles promesses, c'était en un an, même pas.
On est balayé. Merci pour ce témoignage. Marc Vicario était avec nous aujourd'hui. Donc je rappelle, du diacre du diocèse d'Orléans, aumônier de la délégation de ce diocèse du Loiret, de département du Loiret, pour Lourdes Cancer Espérance. Et puis on vous souhaite bon anniversaire de diaconat. 30
oui,
ans.
Oui, oui. Hein,
et à bientôt, j'espère, à Lourdes ou sur cette antenne. Bah, au revoir.
Normalement, ça sera les prochaines.
Au revoir.
Présence de passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Radio Présence à Lannemezan 92.2.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Semaine jubilaire inédite pour les jeunes, il s'agit de faire fructifier cette expérience.